BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas.
Bonjour à tous, nous sommes à Acte 50 pour ce nouveau numéro de BFM Climat. Acte 50, c'est un événement dédié à la transition climatique organisée par nos confrères de la Tribune. Toute la journée, des chefs d'entreprise, des responsables politiques, des scientifiques sont ici pour préparer la France aux 25 années qui viennent et notamment notre économie. Et on va en parler avec nos trois invités aujourd'hui, donc ici à Acte 50 dans BFM Climat. Je recevrai Virginie Schwartz, la PDG de Météo France, Catherine Albax, qui s'occupe de l'adaptation des centrales nucléaires chez EDF, et l'explorateur, chercheur et entrepreneur Christian Clot. Et je vais commencer donc avec Virginie Schwartz. Bonjour madame.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes
avec
la PDG de Météo France et vous intervenez tout à l'heure dans une table ronde qui s'intitule « Comment vivre avec les risques naturels ?» Et c'est quelque chose, les grands publics ne le savent pas, mais que vous faites de plus en plus auprès des entreprises. Très concrètement, comment vous aidez les entreprises justement à vivre avec les risques naturels qui se multiplient ?
Alors, d'abord, à court terme, notre métier, c'est de les avertir en cas de risque météorologique dangereux. Donc on a un dispositif bien connu qui est la vigilance météorologique, cette carte avec quatre couleurs, et donc qu'on améliore de façon continue, par exemple en améliorant l'anticipation. Depuis 2022, on a une carte sur 2 jours au lieu de 24 heures seulement. On a aussi des avertissements à partir de 7 jours à l'avance pour permettre à tous les acteurs d'adapter leur comportement, de prendre leurs précautions. Et puis, ce qu'on cherche de plus en plus à faire, c'est à faire mieux connaître, mieux diffuser cette vigilance. Par exemple, est-ce que vous savez que vous pouvez vous abonner à une notification sur l'application mobile de Météo France pour recevoir directement sur votre téléphone une information sur D'accord. le département de votre choix à chaque fois qu'il y a une vigilance orange ou rouge qui est annoncée.
D'accord.
Ça, c'est très important. La dernière chose qui est importante, c'est qu'on veut participer à la culture du risque et donc bien faire comprendre quels sont les risques liés à ces événements météorologiques extrêmes. Par exemple, le risque de submersion sur une route, ne pas s'engager sur une route qui commence à être un peu immergée quand on est dans une vigilance orange, parce que votre voiture peut très vite être emportée. Ce genre de conséquences, tout le monde ne les a pas bien en tête, et donc on travaille beaucoup pour matérialiser ces risques et faire connaître les bons conseils de comportement selon les types de vigilance, selon les niveaux de vigilance. C'est vraiment important que chacun soit acteur de sa sécurité, de la sécurité de ses salariés, de la sécurité de ses collègues.
Donc vous fournissez ces services à horizon quelques jours, ils sont évidemment très importants, gérer le quotidien et le très court terme, mais vous êtes capable de projeter les entreprises beaucoup plus loin. Vous êtes devenu un acteur clé de données de la transition climatique et de l'adaptation. Comment est-ce que vous faites ça ? Comment est-ce que vous êtes capable de dire aux entreprises, voilà, dans quelques décennies, à quoi va ressembler votre territoire ?
Finalement, les modèles que nous utilisons pour produire la météo à quelques jours, c'est un peu les mêmes que ceux qu'on utilise pour pouvoir projeter, faire des scénarios sur ce que le changement climatique va impacter jusqu'à la fin du siècle, jusqu'en 2100.
D'accord.
Et donc, au travers de ces modèles...
Vous êtes capable de projeter les entreprises aussi loin, jusqu'à la fin du siècle, donner un cadre climatique.
On est capable de projeter les territoires jusqu'à la fin du siècle, et on le fait même à l'échelle communale, puisqu'on a un outil qui s'appelle Climadiag Commune, gratuit, en libre accès sur le site de Météo France. Vous pouvez y aller, vous rentrez le nom de votre commune, le code postal, et vous recevez directement un petit document d'une vingtaine de pages, fait pour être le plus simple possible, avec les 20 plus grands indicateurs d'impact du changement climatique sur ce territoire,
D'accord.
qui vont vous montrer combien de jours de pluie intense supplémentaires est-ce qu'il va y avoir sur le territoire. Comment va évoluer le nombre de jours avec un risque d'incendie, comment va évoluer le risque de submersion marine si vous
D'accord.
êtes au bord de la mer, comme tous ces grands risques.
Vous avez cartographié toute la France.
On a cartographié.
Et donc toutes
toute
les entreprises localement peuvent savoir, peuvent se projeter et savoir à quel risque elles vont être les plus exposées.
Voilà, à partir de ça, elles peuvent commencer leur diagnostic de vulnérabilité qui va être finalement le point de départ ensuite de leur stratégie d'adaptation pour vraiment guider un plan d'action sur ce qu'elles doivent faire, puisque le changement climatique, il est déjà là aujourd'hui. Nous, on le mesure, on l'observe tous les jours.
Bien sûr.
Mais il va s'aggraver, et en particulier sur ces événements intenses. Voilà, on sait que les vagues de chaleur d'ici 2050, c'est pas si loin, 2050,
bien sûr.
On va avoir en moyenne sur le territoire de l'ordre de 25 jours de vagues de chaleur par an. Mmh. Dans les zones les plus exposées, on pourrait avoir jusqu'à 100 nuits très chaudes. Les nuits très chaudes, ce sont ces nuits où l'organisme n'arrive pas à récupérer et où donc on commence à avoir des incidences pour la santé. Mais on a aussi, par exemple, des conséquences sur la sécheresse des sols. On estime d'ici 2050 à peu près un mois de sécheresse de sol en plus que ce qu'on connaît aujourd'hui.
D'accord.
Et puis, le changement climatique, ce sont des extrêmes chauds et secs, mais ce sont aussi des extrêmes humides, parfois d'ailleurs sur les mêmes territoires. C'est ça aussi qui est compliqué à appréhender, avec les inondations, comme celles qu'on a connues cet automne un peu partout en Europe, avec des pluies intenses qui deviennent de plus en plus fortes, de plus en plus fréquentes.
Ouais.
Qui pourrait augmenter de 10 à 15% d'ici 2050, et donc avec des conséquences derrière en termes d'inondation.
Alors, est-ce que les entreprises viennent vous voir ? Est-ce qu'elles se saisissent de cette mine d'or de données ?
Alors,
ou est-ce qu'elles n'ont pas encore bien pris conscience de tout ça ?
Alors, c'est très variable d'un secteur d'activité à l'autre, aussi parce que les impacts sont très différents d'un secteur à l'autre. Par exemple, dans le domaine de l'énergie aujourd'hui, les entreprises ont bien pris conscience de ces enjeux-là, et on a énormément de collaboration avec différentes entreprises du secteur de l'énergie.
Ouais.
Les entreprises du secteur des transports aussi, que ce soit le transport ferroviaire, la SNCF par exemple,
bien
que
sûr.
Ce soit le transport aérien. Que ce soit les ports, aujourd'hui on a des collaborations sur le domaine des ports, sur le domaine des aéroports, pour voir quelle va être la résilience des infrastructures aux évolutions du climat.
Donc ils viennent vous voir, ils travaillent avec vous.
Ça
fait depuis combien de temps ? Parce que c'est assez récent quand même là, ce qu'on décrit. Et puis là, cette prise de conscience collective et générale autour du changement climatique, ça fait combien de temps que maintenant les entreprises collaborent avec Météo France pour se projeter et s'adapter au changement climatique ?
Souvent, ces grandes entreprises avec nous, qui nous travaillons, qui sont sur des secteurs essentiels à la nation, ce sont aussi les entreprises qui sont sensibles à la météo. Et donc, nous avons des collaborations avec elles de très longue date sur la météo. Et ces dernières années, progressivement, elles sont montées en puissance sur le sujet de l'adaptation. Et nous avons pu commencer aussi à les accompagner sur le sujet de l'adaptation au changement climatique.
J'imagine que les assureurs aussi dialoguent beaucoup avec vous. Ils sont évidemment en première ligne.
Les assureurs sont très impliqués, à la fois aussi comme vigie du changement climatique, puisque nous pouvons témoigner de l'évolution des paramètres météorologiques, mais eux voient directement les dommages et communiquent régulièrement sur les dommages, et effectivement s'inquiètent des conséquences de ces dommages sur leur modèle économique, et donc sont très actifs pour travailler avec nous, pour évaluer des impacts. Par exemple, on a travaillé avec la Caisse centrale de réassurance, la CCR, sur les impacts des cyclones dans les territoires d'outre-mer, en particulier aux Antilles, puisqu'on sait que les cyclones ne vont pas forcément devenir plus nombreux, mais ils vont devenir plus intenses. Donc on aura davantage de cyclones forts dans les outre-mer, et donc plus dévastateurs, et donc avec davantage de conséquences pour les populations et pour les assureurs. Et on a fait avec eux une étude approfondie sur ce sujet-là.
Bon, merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Et c'est passionnant parce qu'on comprend bien que votre métier a complètement changé. Avant, vous faisiez de la météo et maintenant, vous faites de plus en plus du climat.
Et
donc, c'est un changement radical de ce que vous faites.
Et on a besoin, petit à petit, d'entraîner tous nos partenaires publics et privés pour effectivement faire cette transition, ce que nous, on appelle le sans couture. C'est-à-dire regarder toutes les échéances de temps, depuis le très court terme, la prévision immédiate, jusqu'au très long terme pour l'adaptation au changement climatique.
C'est ça. Et une échelle de temps qui s'étale sur des décennies. Merci, c'était passionnant et on a appris plein de choses. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Virginie Schwartz, d'avoir répondu à nos questions ici à Acte 50 pour BFM Climat. On va passer la parole, vous parliez de l'énergie. On va passer la parole à Catherine Albax qui travaille chez EDF, qui est la madame adaptation de chez EDF concernant les activités nucléaires. Bonjour madame.
Bonjour.
Merci d'être là et de répondre à nos questions. Alors vous faites un métier absolument passionnant et vital puisque vous vous occupez du futur de nos centrales nucléaires. C'est vous qui designez, qui concevez le plan d'adaptation de nos centrales nucléaires.
Alors
racontez-nous comment vous faites ça.
D'abord, c'est un énorme travail d'équipe. Donc nous
pas vous toute seule. Mais bon,
voilà, je vous rassure.
Vous êtes la tête pensante.
Voilà. Et donc on a un plan d'adaptation.
Vous l'avez ce plan, oui.
Absolument.
Il est ficelé, il est fait, d'accord.
Ah non, il est
en cours.
Il est en cours. Il est là. Il est évolutif en permanence puisque dans les fondements quand même que on entend aujourd'hui, c'est que le changement climatique est inéluctable. Donc nous sommes systémiques. Donc, on est bien sûr dans une adaptation permanente. Alors, on a un plan d'adaptation qui est en cas de partie, comprendre déjà. Donc, c'est tout le travail qu'on fait, par exemple, avec Météo France, qui est tous les scénarios climatiques, les travaux du GIEC, et ramener au niveau de nos centrales pour comprendre quels sont les futurs possibles. Derrière, une fois qu'on a tous les futurs possibles, on évalue les problématiques. Ouais. Donc, on évalue la température de l'air, la température de l'eau, les étiages sévères, la montée du niveau de la mer, les événements extrêmes dont vous avez parlé juste avant avec Virginie.
Tout à fait.
Et puis derrière, il faut se mobiliser et agir. Donc, la troisième partie, c'est derrière de prendre des décisions d'investissement futur, de chercher des nouvelles technologies pour que les centrales soient là demain pour produire de l'électricité décarbonée, parce que l'urgence, c'est aussi la décarbonation.
Bien évidemment. Alors là, vous avez dit plein de points très importants et sur lesquels je vais rebondir. Déjà, vous en êtes où dans ce plan ? La cartographie des risques et des besoins.
Alors, la cartographie des risques est connue. Maintenant, le vrai sujet pour nous, c'est en fonction des trajectoires de gaz à émission, d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui est quand même fondamental, c'est de se dire où est-ce qu'on va atterrir et donc comment va se comporter le territoire. Et maintenant, le grand sujet pour nous, c'est d'emmener les territoires. Puisque, comme on se le disait tout à l'heure, c'est systémique et nous, on dépend des territoires. On dépend des routes, on dépend des ponts, on dépend des écoles. Et c'est donc toute cette dynamique-là qu'on est en train d'essayer d'emmener, avec bien sûr la chance d'avoir...
Pardon, vous dépendez de tout cet écosystème, pourquoi ? Pour la décarbonation ?
Pour tout ! Nos salariés viennent,
pour
le travail, mais les enfants sont à l'école.
Ah,
et on a vu, par exemple, au moment du Covid, que lorsqu'on prend une décision de fermeture d'école, eh bien nous, on a derrière une véritable problématique que nos salariés soient disponibles. On peut se dire demain que si les écoles ne sont pas adaptées et qu'on a une décision qui dit 30 degrés, on ferme les écoles, on va se retrouver, nous, dans la même problématique. Donc c'est indispensable que tout le territoire s'adapte. Il faut qu'on puisse circuler avec des colis sur les routes. Ouais. Il faut que les ponts soient solides. Et donc tout ce travail-là et c'est quelque chose qu'on embarque aujourd'hui. Et puis, nous devons préserver l'eau, parce que nous, tout notre business dépend de l'eau. Enfin, la production d'électricité dépend de l'eau.
Ouais.
Et donc, on a un énorme travail de préservation du grand cycle de l'eau, de solutions fondées sur la nature, tout un travail autour de la biodiversité, qui est certainement l'enjeu un peu caché, mais qui est fondamental. Nous n'avons pas d'avenir si nous ne préservons pas la biodiversité. Tout ça, le plan d'adaptation l'embarque.
C'est complètement dingue. C'est-à-dire que votre plan d'adaptation à vous, à EDF, c'est un plan d'adaptation national.
Alors,
on n'imagine pas, en fait, toutes les conséquences, tous les leviers qu'il faut activer pour qu'on puisse continuer à
produire
du nucléaire.
On est la partie énergie du plan national d'adaptation au changement climatique, qui est un document que je conseille à tout le monde de lire, qui est le PNAC, qui est un excellent document, qui pose les choses. Maintenant, il faut passer à l'action.
Il faut passer à l'action. Vous le disiez, vous parlez de la ressource en eau. Est-ce que c'est ça le premier défi climatique auquel vous êtes confronté dans votre activité nucléaire ?
C'est pas obligatoirement le premier défi climatique, mais c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur qui va largement au-delà du nucléaire. C'est un enjeu majeur pour plusieurs raisons. D'abord, on voit bien qu'on a des sécheresses importantes, mais on a aussi trop d'eau. Par moment, avec les orages importants, malheureusement, on l'a vu à Valence de façon gravissime. Donc, on a une réflexion globale à avoir sur la préservation de la ressource en eau, sur la gestion de l'eau, et derrière aussi sur tout un travail sur le partage de l'eau.
Oui, sur le partage de l'eau, parce que vous m'arrêtez si je dis une bêtise. Il me semble que la France va perdre un quart de ses ressources en eau dans les décennies à venir.
Alors,
ça, c'est systémique. Vous parlez de systémique. C'est quelque chose de complètement dingue.
C'est difficile à dire. En moyenne, on ne va pas perdre grand-chose. Mais ce qu'on voit aujourd'hui dans tous les modèles qu'on a, c'est qu'on aura moins d'eau en été et plus d'eau en hiver. Le vrai sujet, il est plus dans cette dynamique-là.
Ouais.
Donc, c'est une dynamique globale de gestion de la ressource. Après, il y a des territoires comme le sud-ouest qui tendent vers des climats méditerranéens. Et là, on voit bien que la logique, elle, est une logique d'assèchement liée à la remontée du climat méditerranéen.
Et dans ces cas-là, donc dans les territoires exposés à ce risque-là de stress hydrique, comment vous faites ? Concrètement, on adapte des centrales
déjà,
à ce risque-là.
Déjà, il y a tout un travail sur utiliser moins d'eau. Parce qu'évidemment, les centrales ont été imaginées à une époque où la question de l'eau ne se posait pas.
Ouais.
Donc, on a tout un travail sur la réflexion sur l'avenir de la ressource, sur la limitation. On a un énorme travail sur la recherche de solutions, de recyclage, de réutiliser l'eau, ce qu'on n'avait pas imaginé jusqu'ici.
Non.
On a un travail de récupérer l'eau d'épanage, vous savez, cette eau qui d'épanage des aéro-réfrigérants. On a tout un travail aujourd'hui pour récupérer l'eau avec une start-up du MIT. Donc, on a plein de choses qui partent sur... réduire, réutiliser et derrière, bien sûr, tout un travail avec nos collègues, par exemple, de l'hydraulique sur la gestion des grands barrages.
Donc, on parle du stress hydrique. Quels sont les autres risques climatiques auxquels les centrales en France sont exposées ?
Après, on est comme tout le monde, on est exposé au même risque que tout le monde, sauf qu'on a pris énormément, par exemple, sur le risque inondation qui a été imaginé depuis très longtemps et travaillé là-dessus. On est sur des plateformes extrêmement élevées. Donc, pour nous, aujourd'hui, le vrai sujet, par exemple, de l'inondation est plutôt comment le territoire autour de nous va se comporter. Et là, donc, on a un travail qui débute avec le CEREMA et où Météo France va s'associer pour travailler ensemble sur cette dynamique qui est cette fois-ci la dynamique territoriale.
Sur les 56 réacteurs qu'on a en France, est-ce qu'il y en a qui sont plus exposés que d'autres? Est-ce qu'il y en a, vous vous dites, là, il y a un danger à horizon 20-30 ans, il y a une menace identifiée?
Danger, il n'y en a pas. On n'a pas de danger. On a certainement des réflexions.
Zéro danger.
En termes de danger, c'est clair. En termes de capacité à produire, ce qui est tout à fait différent.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire qu'on va peut-être avoir, on aura certainement certaines centrales qui, à cause de la sécheresse, seront certainement appelées à moins produire en été. Mais pour le moment, on a des réflexions autour d'améliorer, comme on se disait,
Ce sera à partir de quand? Des centrales qui fonctionneraient plus à 100%?
Oh ben ça, on l'a déjà vécu en 2003. Donc,
et même encore plus récemment.
Jusqu'ici, on a eu, j'allais dire, beaucoup de chance, mais c'est des choses qu'on surveille de près. Mmh. Et aujourd'hui, on a un pilotage grâce à l'hydraulique de ce qu'on appelle le lac France, qui est permanent. Et quand on voit qu'on arrive en stress hydrique, on a des réunions pratiquement toutes les 24 heures pour savoir comment les choses vont se comporter. Et puis, on a le positionnement de nos arrêts de tranche, c'est-à-dire qu'on peut aussi se dire que, telle centrale, on va plutôt faire les travaux à ce moment-là, et donc la déconnecter du réseau à un moment où on est avec peut-être moins de disponibilité de l'eau.
Tout ce travail d'adaptation, j'imagine que vous faites aussi pour les futurs réacteurs?
Oui.
Est-ce que là-dessus aussi c'est au point,
déjà les futurs réacteurs, ils sont prévus pour aller à 2100, donc on les a dimensionnés en tenant compte du dérèglement climatique.
Ouais.
On choisit aussi
de nouveaux modèles, les nouvelles générations,
les nouvelles
EPR2.
Générations.
Donc c'est un autre travail.
C'est un autre travail.
Et ça se présente plus facilement?
C'est différent.
Ils vont être de base plus robustes, plus adaptés?
Ils seront nécessairement plus adaptés, ça c'est sûr. Ouais. Et puis ils bénéficient aussi de tous les travaux qu'on fait aujourd'hui sur le parc existant en matière de technologie, par exemple sur les technologies de refroidissement et des choses comme ça.
Toute dernière question, combien tout ça va coûter, l'adaptation du parc au changement climatique?
Alors le débat, il est beaucoup plus large que ça. La vraie question, c'est qu'aujourd'hui, on a un plan national d'adaptation au changement climatique dont on attend...
Que personne n'a chiffré.
Dont on attend avec impatience le volet financier.
Ouais.
Donc c'est un ensemble global. Donc nous, bien sûr, on travaille aux estimations. On prendra notre part. Mais l'énorme travail, bien sûr, est un travail systémique autour de ce plan. Puisque même si nous, on faisait des gros investissements, si le territoire ne l'était pas, on ne serait pas adapté. Donc il faut travailler tous ensemble au volet financier.
Bien sûr, faut
du plan d'adaptation.
Travailler tous ensemble. Mais vous, vos ordres de grandeur à vous, à EDF, même si évidemment l'adaptation seule, ça ne marchera pas.
Si j'allais vous dire quelque chose, ça n'a pas réellement de valeur parce que ça va dépendre de l'échéance à laquelle on se place. Évidemment, une échéance à 2030 ou à 2050, c'est pas la même chose. Mmh. C'est tout un travail qu'on fait aussi avec aujourd'hui l'ASN, donc pour voir pour l'autorité de sûreté nucléaire, pour voir jusqu'où on va prolonger les tranches.
Ouais.
En fonction de ce travail-là, évidemment, chaque tranche aura un besoin particulier, spécifique. Golfech, ce ne sera pas la même chose qu'à Flamanville et des choses comme ça. Donc aujourd'hui, on travaille vraiment dessus, mais à des échéances différentes.
Bon, c'est absolument passionnant. Vous reviendrez nous voir pour
avec
en parler
plaisir.
parce que c'est l'avenir du pays qui se joue aussi avec cette question-là. Merci beaucoup Catherine Albach. Donc chef du projet ADAPT, c'est vous la madame d'adaptation des centrales nucléaires d'EDF. Je reçois maintenant Christian Clos pour continuer à parler d'adaptation. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans BFM Climat ici à Axe 50. On vous connaît sur BFM Business, on vous a déjà reçu. Vous êtes un chercheur, vous êtes un explorateur. Vous avez créé aussi l'Human Adaptation Institute. Toute première question, Christian Clos, vous vous êtes emparé de ces questions il y a très longtemps. Ça fait une vingtaine d'années que personnellement, on va en parler avec ce que vous faites, vous vous êtes emparé de ces questions-là. Qu'est-ce que vous diriez qui a changé en 20 ans?
J'aimerais dire pas grand chose dans un sens et à la fois faut quand même rester optimiste par rapport à ça. C'est-à-dire que ce qui a changé, c'est que le mot adaptation commence enfin à être considéré par les pouvoirs publics, par les entreprises comme quelque chose de nécessaire. Non plus seulement pour dire, on va devoir vivre dans le futur difficile, mais pour considérer que nos changements d'aujourd'hui pour que le climat soit en meilleure situation demain, font partie des notions adaptatives. Et ça, c'est quelque chose qui a changé et qui nous permet peut-être aujourd'hui d'aller plus vite dans les besoins de changement.
Ouais. Enfin, j'ai envie de dire, parce que comme vous dites, en 20 ans, enfin, il aura fallu du temps avant qu'enfin on comprenne cette idée d'adaptation.
Non, mais ce qui a été terrifiant, c'est qu'on a très longtemps opposé deux termes, c'est cette notion d'atténuation et d'adaptation, comme si on pouvait atténuer sans s'adapter, comme si on pouvait
atténuer, c'est réduire les émissions.
Absolument, atténuer, c'est réduire les émissions. Et pour réduire les émissions, on doit changer des comportements, changer des habitudes, sont justement des changements adaptatifs. Donc on doit vraiment, aujourd'hui, complètement arrêter cette notion de faire atténuation, adaptation. On doit mettre en valeur une seule chose, la nature. Et la nature a aujourd'hui besoin d'être questionnée dans son ensemble, pas seulement sur le climat. Et c'est ça qu'on doit faire aujourd'hui, tous ensemble.
Alors, comment est-ce que vous expliquez que, même s'il y a une prise de conscience maintenant, en général, ça commence à bouger sur la décarbonation, l'adaptation, ça y est, on commence à en parler. Mais comment est-ce que vous expliquez que les choses soient aussi lentes?
Elles sont lentes parce qu'on n'a pas tout à fait encore saisi le besoin humain. Le besoin humain, c'est qu'on a un cerveau qui fonctionne d'une certaine manière, qui a besoin d'un espoir, qui a besoin de volonté, qui a besoin d'espoir pour le futur, pour agir. Or, si on dit à quelqu'un que c'est trop tard, que c'est fini, que c'est impossible, eh ben, tout simplement, la personne est tétanisée, ne pourra pas agir. Ça, c'est
découragé.
Le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on ne fonctionne que sur nos sensorialités. On comprend un problème parce qu'on est touché émotivement par ce problème. Or, aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur l'information. Ce qui est nécessaire, il faut de l'information, mais n'est pas encore assez relié à une réalité émotive. Et donc nous, c'est vraiment le travail qu'on essaie de mener avec mon institut, c'est de dire comment est-ce qu'on apporte l'émotion du changement aux humains et pas seulement l'information du changement.
Oui, en fait, il faut être confronté aux risques. Il faut être confronté au problème pour se retrousser les manches.
Oui, alors je dirais, confronté, je ne sais pas. En tout cas, il faut en saisir une réalité. Par exemple, parler climat, c'est une chose, c'est très complexe à comprendre, les notions climatiques. Parler de santé humaine, de l'impact du climat sur la santé.
Tout à fait, ouais.
Alors tout de suite, on commence à toucher quelque chose de très personnel. Parler de la santé de ses enfants.
Concret,
là,
ouais.
on touche à la santé du futur. Donc on a besoin de ce concret. Alors je ne dis pas que c'est facile, hein, ça ne veut pas dire que ça changera tout. Mais en tout cas, on a besoin aujourd'hui d'être beaucoup plus pédagogue, pas seulement dans l'information, mais dans l'envie d'embarquer des gens dans une nouvelle aventure. Et je dirais, on a un futur inconnu et c'est à nous de le construire. Donc c'est, quelque part, c'est une aventure merveilleuse aussi.
Ouais. Qu'est-ce que vous proposez concrètement aux entreprises avec votre institut justement pour les aider à les embarquer, à faire cette expérience-là et à les mettre en mouvement?
Alors nous on propose trois choses très concrètes. D'abord, on a une étude qui s'appelle Adaptance qui permet de comprendre quel est l'état d'avancement de l'équipe, à savoir est-ce qu'ils ont envie de changer ou pas envie de changer. Parce que quand on met en place un changement, il faut savoir d'où on part. Est-ce que les gens ont très envie de bouger? Et alors si on va trop lentement, ça ne marchera pas. Mais au contraire, si les gens sont très réactifs au changement, alors il ne faut pas aller trop vite. Donc ça, on propose une étude qui permet de caractériser cette capacité.
Qu'est-ce que vous voyez d'ailleurs en général? C'est intéressant. Les gens ont envie de bouger ou pas encore trop?
Ouais, il y a pas mal de gens qui ont envie de bouger, mais pas forcément comme le pense l'entreprise à la base. Donc c'est intéressant aussi d'essayer de se mettre en adéquation. Alors je dis pas que l'entreprise peut s'adapter toujours à ses équipes, mais on doit quand même essayer de comprendre pourquoi ils veulent changer. La deuxième chose qu'on propose, c'est une compréhension de l'impact des risques chaleur. Les canicules vont devenir de plus en plus fréquentes, on doit protéger ces équipes et pour ça il faut réfléchir dès aujourd'hui à la manière de mettre en place les bons systèmes pour les protéger, que ce soit structurel pour l'entreprise ou que ce soit dans la manière comportementale de faire face à la chaleur. Puis la troisième chose qu'on a qui va avec la deuxième, c'est qu'on a construit une chambre climatique mobile qui permet de vivre concrètement le climat du futur. Donc là, on propose aux entreprises de venir chez elles et soit de mettre les équipes, mais mieux encore, de mettre les COMEX, les CODIR, pour avoir une prise de conscience justement émotive et sensorielle.
C'est un très bon exemple.
Et là, c'est extraordinaire les capacités qu'on a de faire changer l'entreprise derrière.
Bien sûr, avec un exemple très concret, c'est le Climate Sense.
Absolument.
C'est un camion où en fait on est à 50 degrés et où les gens font l'expérience de ce que c'est de se déplacer à 50 degrés, de travailler, de communiquer.
Oui.
On en avait parlé dans BFM Climat avec Antoine Poincaré. Donc vous dites qu'il y a des COMEX qui viennent là-dedans voir ce que c'est concrètement.
Mais absolument, vous savez, on fait un COMEX de un peu moins d'une heure, hein, 45 minutes et tout.
Ouais.
Et à la fin, on leur montre les décisions qu'ils ont prises à la fin de ce COMEX. Et on leur montre ça quand ils sont bien reposés l'après-midi ou le lendemain. Et là, ils voient que leurs décisions n'ont plus d'acuité parce que tout simplement, à 45 minutes et à 50 degrés, on a une dégradation cognitive qui freine les décisions. Donc, ça, c'est une prise de conscience qui est dans la chair.
Ouais, c'est un choc.
Mais en fait, en moins d'une heure, je suis déjà dégradé par ces chaleurs-là.
Mmh.
Là, c'est évident qu'on n'a pas envie de vivre ça. Personne ne veut vivre ça. Donc, c'est une prise de conscience sur le besoin d'aujourd'hui pour construire demain.
Et alors, justement, vous intervenez tout à l'heure dans une table ronde qui s'intitule « Comment travaillerons-nous demain ?» Est-ce que, au vu, là, vous donnez l'exemple, par exemple, des chaleurs extrêmes, est-ce qu'il y a des métiers qui vont disparaître, des métiers qu'on ne pourra plus faire parce qu'ils seront trop dangereux?
Je dirais, non, on n'aura pas le choix. Vous prenez un ambulancier, un policier ou une personne qui doit travailler dans la rue, une personne agriculteur, agricultrice qui travaille dehors, on ne pourra plus lui dire, il va faire trop chaud, arrête de travailler. Ce sera impossible. Donc on doit chercher aujourd'hui des solutions d'abord pour éviter les 50 degrés. Ça, c'est quand même le premier point.
Ouais.
Et ensuite, il va falloir qu'on trouve des adaptations physiologiques, cognitives, comportementales et peut-être technologiques et structurelles pour qu'on permette à ces métiers de continuer d'exister. Vous savez, si on continue sur la trajectoire actuelle, on parle de 6 à 8 semaines par an de plus de 45 degrés Celsius sur la France dans certaines régions. On ne pourra pas dire aux gens pendant deux mois vous ne travaillez pas.
Donc
on doit trouver et réfléchir ensemble à des solutions. Mais je dirais qu'aujourd'hui on a un problème, c'est qu'on n'a pas de volonté politique sur ce sujet. On joue la dinette politique sur les grands sujets actuels.
Ouais,
donc on a un vrai enjeu et c'est malheureusement ou heureusement peut-être l'entreprise qui va devoir s'en emparer.
Toute dernière question. En général, c'est engageant quand c'est les entreprises qui doivent s'en occuper. Les entrepreneurs prennent leurs responsabilités. Toute dernière question, Christian Clos. Vous qui vivez dans votre chair, justement, parce que vous avez conduit beaucoup d'explorations extrêmes aux quatre coins du monde, vous vous êtes fait connaître pour ça. Vous qui vivez tout ça de près, intimement, est-ce que le changement climatique vous fait peur? Ça va être une épreuve inéluctable? Ou est-ce que vous restez confiant en l'avenir?
Heureusement, j'en ai peur. Et parce que j'en ai peur, ça m'oblige à agir, ça m'oblige à questionner les raisons de cette peur. Les raisons de cette peur, c'est effectivement le besoin de faire modifier les comportements humains, faire évoluer les entreprises. Et cette peur que j'ai en moi, que j'ai depuis longtemps, hein, parce que moi, ça fait 20 ans que je travaille là-dessus, elle m'a poussé à agir, à faire et à construire. Je crois qu'aujourd'hui, on doit déplacer la peur non plus sur la tétanie qu'elle représente, mais sur l'envie très concrète de s'en emparer pour créer demain. Et là, je pense que l'entreprise, les entreprises, commencent à le réaliser, agissent. Maintenant, on doit simplement les aider, leur donner des bons outils, les bonnes données, et c'est là que nous, on intervient pour leur apporter des indicateurs fiables pour les aider à prendre les bonnes décisions.
Bon, ce sera le mot de la fin, et c'est extrêmement concret et passionnant. Merci.
Merci.
Merci beaucoup, Christian Clos, d'avoir répondu à mes questions ici à Acte 50 pour BFM Climat. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite dans BFM Climat pour une nouvelle émission. À très vite.
BFM Climat, l'émission sur BFM Business.